Bonjour frères et sœurs. Ce qu'on vient de chanter, là, notre Dieu, c'est comme une déclaration de notre foi. Les croyants peuvent dire notre Dieu, mon Dieu. Les croyants, en fait, à la base, affirment que Dieu existe. Les athées, à l'opposé, vont affirmer, ils vont déclarer que Dieu n'existe pas. Et on assiste parfois à des combats farouches hein, dans le monde, où, combats philosophiques, là, croyants contre athées. Ce qui est particulier, c'est les agnostiques. Agnostique, c'est qu'ils vont dire « on ne sait pas, je ne sais pas ». Et les agnostiques qui sont les plus convaincus vont essayer de nous convaincre aussi qu'on ne peut pas savoir si Dieu existe. Ils vont même dire aux croyants « arrêtez de dire que vous croyez que Dieu existe, vous ne le savez pas, personne ne le sait ». Leur réflexion est logique puis elle découle d'une question fondamentale. T'sais. Si le Dieu auquel on croit est invisible, on ne peut pas lui toucher, là. On ne peut pas converser avec lui là, comme on converse avec des êtres humains. Si Dieu est invisible, comment on peut savoir qu'il existe réellement? Comment on peut apprendre quoi que ce soit sur lui? Comment on peut connaître sa volonté, ses intentions, son caractère, son plan? Qu'est-ce qu'il attend de nous s'il est invisible? Mais on commence aujourd'hui l'étude de l'Évangile de Jean. Et un des thèmes principaux de l'Évangile de Jean, c'est justement de nous montrer que c'est possible de savoir que Dieu existe, de savoir à propos de lui, parce que Jésus-Christ est venu le révéler. On dit, il n'y a personne qui a vu Dieu pour venir nous en parler. Bien, c'est faux. Jésus est venu nous en parler. Il est venu nous le révéler. Il est venu montrer même la gloire de Dieu. Devant l'Évangile de Jean, finalement, n'importe qui va lire l'Évangile de Jean est confronté dans sa position, soit à l'accepter ou à le refuser. Donc, la position de chacun, finalement, dépend de si on accorde foi à la révélation de Jésus, à son message. Tout dépend de si on accepte ce que Jésus nous dit ou si on le refuse. Mais c'est faux de dire qu'il n'y a aucun moyen de le savoir. On y croit ou on n'y croit pas. Cet évangile, c'est le quatrième, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et dans le temps aussi, on croit que c'est le dernier qui a été écrit. Donc, le quatrième évangile est le dernier. Il n'existe pas d'évangile de Thomas ou de je ne sais pas quoi là. Bien, il y a des écrits, mais ce n'est pas des évangiles réels. Les évangiles inspirés par le Saint-Esprit, c'est le dernier, écrit par Jean, non pas Jean-Baptiste, mais l'apôtre Jean. Donc, parmi tous ceux qui suivaient Jésus, les disciples, Jésus en a choisi 12 pour être près de lui, pour les former pendant 3 ans et demi environ, qu'ils le suivent partout, qu'ils deviennent ses apôtres officiels, ceux qu'il allait envoyer ensuite, après son départ au ciel, pour apporter l'Évangile, la bonne nouvelle, dans le monde entier. Et, par leur transmission de leur message, ils étaient les ambassadeurs officiels de Jésus, le Nouveau Testament a pu être écrit. Donc, cette tâche-là, elle est accomplie. Les apôtres ont terminé leur mandat. Mais parmi le cercle des apôtres, il y en avait 3 plus intimes encore, on peut dire comme les meilleurs amis de Jésus, encore plus intimes, qui ont suivi Jésus même à des endroits où ce que les autres n'ont pas été autorisés à venir. C'est Pierre, Jacques et Jean. D'où l'expression au Québec, Pierre-Jean-Jacques. Mais Jean, c'est l'un de ces 3-là. Il se présente lui-même comme le disciple que Jésus aimait. Pas à l'opposé des autres, là, mais il a senti vraiment l'amour, il en a pris conscience. Et il se caractérise premièrement comme celui qui est bénéficiaire de l'amour de Christ. Ça a changé sa vie. Donc, Jean a été l'un des privilégiés à pouvoir assister sur la montagne à la transfiguration de Jésus. Il a vu le reflet éclatant de la gloire de Dieu là, sur le visage et les vêtements de Jésus. Il a été un des 3 aussi qui a été admis à aller dans la maison du chef de la synagogue où sa fille était décédée et Jésus l'a ramené des morts. Jean a assisté à ça. Il était un des 3 aussi qui était tout près de Jésus quand Jésus était saisi d'angoisse dans le jardin de Gethsémané. Donc, il a vu Jésus, sa prière à son père qui lui demandait même si c'était possible que la coupe s'éloigne de lui. Donc Jean a connu Jésus. Et c'est ce même Jean-là qui a écrit l'Apocalypse qu'on a lu la semaine passée. Donc, il y a beaucoup de similitudes de langage, d'expression. Les 3 épîtres aussi, 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean, c'est écrit par le même auteur. Ce matin, nous allons étudier ce qu'on appelle le prologue. C'est l'introduction du récit, versets 1 à 18. Lisons-le. Jean 1, 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Ici, c'est Jean-Baptiste. Et il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, il l'a fait connaître. Amen. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans ce seul prologue-là. On pourrait facilement passer une étude sur chacun des versets pendant 18 semaines. Mais je pense que le prologue a été écrit pour qu'il soit considéré dans un bloc. Et de toute façon, il n'y a rien qui sera perdu parce que chacun des sujets qui est abordé ici est repris dans l'Évangile. Chacun des thèmes qui est là va être repris dans les chapitres suivants, donc on s'y attardera le moment venu. Mais ici, l'auteur, Jean, il introduit les différents sujets, mais il les développe peu. Donc, on va suivre son intention. On va les survoler ce matin, dans le temps qu'on a. Donner quelques détails, c'est sûr, mais on va les survoler, puis on va les approfondir plus dans les prochaines semaines, dans les chapitres suivants. Le prologue ici introduit plusieurs thèmes, mais aussi le thème principal qui chapeaute comme tout l'Évangile, c'est que la parole divine, le Fils, Dieu le Fils, est venu sur terre, pas pour rien, mais pour manifester la gloire et la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il est venu. Puis tout l'Évangile de Jean nous raconte ça, comment il est venu manifester la gloire et la grâce de Dieu. Et Jean voulait que ses lecteurs y croient vraiment. Donc même la manière qu'il présente le texte, là, souvent il insiste, il présente un récit, puis il ajoute ses propres commentaires. Il veut convaincre ses lecteurs que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Pourquoi? Il le dit au chapitre 20, « Ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Jean voulait vraiment qu'en lisant cela, on croit et qu'on obtienne la vie éternelle, qu'on soit sauvé. Donc, c'est d'une importance extrême. Si vous êtes déjà sauvé, mais c'est quand même important de relire l'Évangile de Jean, d'approfondir ce texte. C'est souvent écrit dans un langage très simple, facile à saisir, mais d'une profondeur qu'on n'a jamais fini de creuser. Le prologue présente donc la parole, Jésus qui est la parole de Dieu, sous trois aspects. D'abord, Jésus est la parole créatrice, qui a créé. Deuxièmement, il est la parole qui est venue éclairer les hommes, éclairer les ténèbres. Et troisièmement, la parole qui est venue révéler la grâce, la vérité, révéler Dieu. C'est bon, on va les regarder les trois. Donc d'abord, verset 1 à 4, au début du verset 4. « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Au commencement de quoi? Il y a plusieurs possibilités. Comme dans ces épîtres, Jean, quand il parle de commencement, il parle comme au commencement de l'ère chrétienne, la venue de Jésus. Mais ici, je pense vraiment au commencement, c'est au commencement de tout, au commencement de l'univers, au jour de la création. D'ailleurs, c'est un rappel au tout premier mot de la Bible, dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ou les cieux et la terre. Donc, Jean rappelle cet événement-là. Le jour de la création, la parole existait déjà. Pourtant, avant que tout soit créé, il n'y avait que Dieu, que le Créateur, mais la parole était déjà là. Avant que quoi que ce soit existe, la parole était. Ce n'est pas écrit « la parole fut », comme si à un moment, elle a commencé d'exister, mais avant, elle n'existait pas. C'est la parole était, à l'imparfait de l'indicatif, en continu. Elle existait déjà. Donc, la parole n'a pas de début. Elle était avant le commencement de tout, dans l'éternité passée. Si on peut reculer, on compte les années, on peut se rendre jusqu'à 1000, 2000, 10 000, 100 000, 1 million. On peut reculer autant qu'on veut, la parole existait. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on apprend dans la suite du récit que la parole, c'est Jésus. Un homme en chair et en os que les gens pouvaient toucher, il est la parole éternelle. La parole aussi, le verset 1 ajoute, était avec Dieu, donc en relation avec Dieu. Donc, on voit que la parole est une personne qui était en relation intime avec Dieu. Même le mot en grec, c'est « pros », donc c'est « vers », auprès de Dieu. Ça sous-entend une relation, une intimité. Dieu n'a jamais été seul. Contrairement à ce que des gens pensent, Dieu n'a pas eu besoin de créer des créatures pour tout à coup pouvoir être en relation d'amour avec elles. Dieu était déjà en relation avec la parole depuis toute éternité. Il connaissait déjà une relation intime d'amour. Et la parole qui est son fils, donc une relation père-fils, un amour profond. Mais surprenamment, Jean ajoute une troisième chose. Donc la parole était avec Dieu, mais la parole était Dieu. Wow! Ça, c'est frappant. Et ça a poussé certaines sectes à vouloir transformer ce verset-là. Les témoins de Jéhovah vont dire, la parole était un Dieu, avec un D minuscule en plus. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. La traduction en 12 secondes ici, elle est bonne, elle est exacte, elle est littérale. La parole était Dieu, le même Dieu dont il est question au début du verset. Donc, non seulement le Fils est avec le Père pour l'éternité, mais les deux sont un même Dieu. C'est d'une profondeur qui nous dépasse. Mais c'est un verset qui est, parmi d'autres, à la base de notre compréhension de la doctrine de la Trinité. La Trinité qui est une doctrine biblique. Donc ici, il manque la troisième partie de la Trinité, là, le Saint-Esprit. Mais déjà, on voit la relation entre le Père et le Fils. Ce sont deux personnes distinctes en relation l'une avec l'autre. Mais les deux sont un seul et même Dieu. Donc, si on adore le Père et qu'on adore le Fils, on n'est pas en train d'adorer deux dieux. On adore le seul Dieu unique, le seul Créateur. Pourquoi est-ce que Jean choisit de présenter Jésus comme la parole? Ici, il y a plusieurs théories. Il y en a qui disent que, parce que le mot « parole » en grec, c'est « logos », et ça existait déjà là, dans les écrits de l'Antiquité. Certains disent que Jean a emprunté le concept du logos à Socrate ou à Philon, ou aux philosophes stoïciens, aux gnostiques. C'est vrai qu'il parlait de la parole. Et dans tous ces cas-là, la parole, c'est comme un concept, c'est une force, comme la sagesse, on pourrait dire. Mais ici, Jean, c'est pas comme ça qu'il en parle. C'est différent de tout ce qui est écrit ailleurs. La parole est une personne divine. Je pense que le concept, de toute façon, Jean l'a pris directement dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu, elle est présente, comme active même. Dans l'Ancien Testament, c'est par la parole que Dieu a donnée à ses prophètes, qu'il veut transmettre, qu'il révèle qui il est, sa personne, qu'il révèle sa volonté. C'est par sa parole qu'il délivre. Il suffit de dire qu'il veut que son peuple soit délivré et il est délivré. C'est par sa parole qu'il sauve. C'est par sa parole qu'il exerce le jugement aussi. Il a dit que les eaux du déluge viennent et les eaux du déluge sont venues. Mais ce qui est fascinant aussi, c'est que c'est par sa parole que Dieu crée. C'est par sa parole qu'il a créé l'univers. Dans Genèse 1, chacune des choses que Dieu crée, il le déclare. Dans Genèse 1, 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, comment il a façonné la lumière, ce n'est pas expliqué, mais il l'a déclaré et la lumière est venue. C'est par sa parole qu'il a tout créé, l'univers. Et même nous, il dit, faisons l'homme à notre image. Et l'homme a été fait. Donc, il a tout créé. Psaume 33, 6 dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Les cieux, c'est l'univers. On contemple toutes les galaxies. C'est énorme, c'est immense, mais tout ça, Dieu l'a créé par son souffle, par sa voix, par sa parole. Mais le verset 3 dit que tout, absolument tout, a été fait par la parole. Rien n'a été fait sans elle. Cette personne-là, le Fils de Dieu, la parole, a tout créé. Il est, finalement, Jésus est le Créateur, il est l'agent divin de la création. Colossiens 1, 16 dit, « En lui, en Jésus, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Tout ce qui est visible, ce qui est invisible, les trônes, les souverainetés, les principautés, pouvoirs, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. » Dieu tient, Jésus tient l'univers pour qu'il continue d'exister. Et le verset 4 ajoute aussi, dans Jean, que la parole est la source de la vie. En elle est la vie. Donc, tous les vivants aussi, là, on n'est pas distinct du reste de l'univers. Nous aussi, on a été créés. Tout être vivant tient sa vie de la source de la vie qui est Jésus. Jésus a donné la vie. Donc, c'est lui qui peut l'enlever, c'est lui qui peut la reprendre. C'est lui qui peut procurer une vie éternelle. Donc, ça, c'est le premier aspect de la parole. La parole est créatrice. Bon, voyons maintenant le deuxième aspect. La parole est venue éclairer les hommes. Versets 5 à 13. La lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean, et il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, selon le verset 5, la parole, la créatrice, qui a créé même la lumière, là, est elle-même lumière qui brille dans les ténèbres. Dans l'Évangile de Jean, si vous l'avez déjà lu, vous en souvenez, il est souvent question des ténèbres. Jean en parle. Mais les ténèbres, ce n'est pas seulement la noirceur. Ce n'est pas seulement la nuit quand les lumières sont fermées. Là. Les ténèbres, c'est un mal qui est actif, qui est rebelle à Dieu. C'est le domaine en rébellion à Dieu, même le domaine où Satan habite, lui plaît d'habiter. Donc, c'est un mal qui est actif, mais la lumière vient dévoiler ce mal-là et fournir le moyen d'en sortir, le moyen d'en être sauvé, sauvé des ténèbres. La première apparition que Jésus fait sur la scène publique, il avait environ 30 ans, c'était lors de son baptême. Et c'est à ce moment-là que Jean-Baptiste a rendu témoignage. Donc, le premier témoin, celui qui est le premier qui a témoigné de qui est Jésus, c'est Jean-Baptiste, lors du baptême de Jésus. Jean-Baptiste était un prophète envoyé par Dieu, comme Moïse, Élie, tous les prophètes de l'Ancien Testament. Dans un sens, Jean-Baptiste, c'est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Même si son histoire est rapportée dans le Nouveau Testament, il est comme dans l'Ancienne Alliance, et il prépare la venue du Messie. Son mandat, c'est d'être le précurseur du Messie, de venir juste avant lui. Préparer quoi? Préparer le cœur des gens à croire en Jésus. Donc, il conduisait les gens à se repentir, à prendre conscience de leurs péchés, prendre conscience qu'ils avaient besoin d'être sauvés, réaliser qu'ils étaient dans les ténèbres. Donc, préparer la venue du Messie, de Christ, pour préparer les gens à croire en lui. Et le témoignage qu'il a rendu, c'est celui-là, c'est la véritable lumière. Il a dit plusieurs choses à propos de Jésus, mais ici, la première chose qu'il dit, c'est que Jésus est la véritable lumière, la vraie lumière. à l'opposé des autres sources de lumière qu'on trouve dans le monde, les lumières spirituelles, les hommes se sont inventés toutes sortes de religions, de philosophies, d'idéologies pour atteindre le succès ou la paix ou le nirvana. Mais Jean a dit, lui, c'est la vraie lumière, la véritable lumière qui éclaire pour vrai. Les autres, finalement, sont fausses. Et le texte ajoute que cette lumière-là, elle est venue dans le monde. Et dans l'Évangile de Jean, le mot « monde », ce n'est pas l'univers, c'est vraiment le domaine des hommes pécheurs, le domaine des êtres humains, mais qui est corrompu par le péché. Le domaine des perdus, le domaine de ceux qui sont en révolte contre le Créateur, le monde qui est plongé dans les ténèbres. Donc, c'est dans ce monde-là que la lumière pure divine est venue. On peut dire qu'elle s'est abaissée à venir briller dans les ténèbres. Donc, c'est dans ce monde souillé que la parole est venue briller. Et Jean ajoute qu'elle éclaire tout homme. Donc, c'est pas seulement qu'elle, potentiellement, elle peut éclairer ceux qui vont se tourner vers lui. Le texte dit vraiment qu'elle éclaire tout homme. Mais elle ne va pas produire le même effet chez tous les hommes. Tout homme est éclairé par la venue de la parole sur terre, par Jésus. Donc, Jésus éclaire effectivement tout homme, mais ça fait en sorte de diviser l'humanité en deux. Ceux qui rejettent cette lumière-là, qui la fuient, ils se trouvent condamnés parce que leurs péchés sont révélés. C'est sûr que les ténèbres n'aiment pas voir leurs péchés révélés. Donc, ceux qui n'aiment pas la lumière la fuient, la rejettent, la haïssent. Mais ceux qui la reçoivent, oui, leurs péchés sont révélés, mais ils se trouvent sauvés des ténèbres. Ils se trouvent sortis des ténèbres, ils sont illuminés. Ils passent au royaume de la lumière. Donc, ils bénéficient de cette lumière-là. Donc, les hommes ne vont pas tous réagir de la même manière à la lumière que donne Jésus. À Montréal, peut-être c'est comme ça en banlieue aussi, là, mais avez-vous des insectes chez vous, où vous habitez? Des petites bébites, là. Mais à Montréal, il y en a qui sortent par les égouts et qui nous envahissent, comme les gros mille pattes dégueulasses, là. Mais il y a des sortes d'insectes que quand tu allumes la lumière, ils se sauvent. Ils n'aiment pas ça. Ils préfèrent la noirceur. Ils sont éclairés, on les voit. Bon, ils n'aiment pas le fait qu'on les voit parce qu'on peut les écraser, comme les petites bébites, les poissons d'argent. Les coquerelles aussi vont fuir la lumière. Il y a d'autres insectes, eux autres, qui en bénéficient. Les fourmis sont actives le jour. Ils bénéficient de la lumière pour tous leurs travaux. Ils s'organisent à la lumière. Donc, ils ne vont pas tous réagir de la même manière lorsque la lumière vient. Et c'est la même chose pour les hommes. Ils ne vont pas tous réagir de la même manière, mais ça va produire un effet, c'est certain. Il n'y a personne qui est indifférent au message de Jésus. Soit qu'on va le fuir, on va l'haïr, ou on va l'aimer et en bénéficier. Et le plus grand bénéfice, là, OK, bon, on va en parler un peu plus loin. Mais le verset 5 dit que, malheureusement, globalement, les ténèbres n'ont pas accueilli la lumière. Donc, le monde des hommes pécheurs, souillés, d'une façon globale, n'a pas accueilli la lumière. Pourtant, la lumière, là, c'est la parole créatrice elle-même. Même le monde, même s'il a été souillé, c'est la création de Dieu. Son créateur vient. Et le monde ne veut rien savoir. C'est une folie. Mais les ténèbres n'ont pas voulu la lumière. Et même le verset 10 dit que même si c'est la parole créatrice elle-même qui est venue éclairer les ténèbres ne l'ont pas connue. Ils n'ont pas entré en relation avec elle. Le verset 11 ajoute même que la parole est venue chez les siens. Là, c'est encore même une notion plus intime. Et les siens ne l'ont pas reçu. Je crois que ça fait référence au peuple d'Israël. Comme les prophètes l'ont annoncé, la parole créatrice venue sur terre devait naître au sein du peuple d'Israël, un juif. Jésus est né juif, il a prêché à son peuple, il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Mais majoritairement, le peuple d'Israël, les juifs, l'ont rejeté. Et ça, on le voit, c'est un thème qui revient à répétition dans l'Évangile de Jean. Il est rejeté, et même la tension augmente de plus en plus jusqu'à ce qu'il soit mise à mort, crucifiée. La population dit, on n'en veut pas. Mais, heureusement, les versets 12 et 13, parmi les plus beaux de toute la Bible, je pense, disent que certains l'ont reçu, et ça continue encore jusqu'à aujourd'hui. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, certains l'ont reçu. Qui sont ceux-là? Ce sont ceux qui ont cru en Jésus, qui ont cru en son nom, qui ont eu la foi en ce qu'il dit, la foi en lui. Et le bénéfice est immense. Ils ont pu devenir des enfants de Dieu, des enfants du Créateur, des enfants du Père. Un privilège immense. Je ne sais pas ça fait combien d'années que vous êtes chrétien, mais c'est une chose qu'on peut saisir de plus en plus dans notre vie chrétienne, mais à quel point le privilège est immense d'être des enfants de Dieu. Et même quand Dieu dit que c'est un privilège, parce que dans notre vie, même, il va nous corriger. C'est un bon rappel qu'on est ses enfants, l'aîné de notre Père. Ça aussi, on apprend à découvrir à quel point c'est vrai. Il ne nous laisse pas tomber, il est fidèle. On est dans sa famille, là, on est ses bien-aimés. Pour cela, ça ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu que ceux qui croient renaissent, qu'ils naissent une nouvelle fois. Non pas physiquement. Le texte dit que ce n'est pas une naissance de la chair, mais une naissance spirituelle. Ils sont nés de Dieu, nés d'en haut, nés de la volonté de Dieu même. Donc, ils sont nés pour appartenir maintenant à la famille de Dieu. Donc, ce qui est sous-entendu, c'est qu'ils n'appartiennent plus à ce monde de ténèbres. Les rebelles à Dieu. C'est ce que Pierre va dire dans 1 Pierre 2,9 en parlant de Dieu. C'est celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ou dans Éphésiens 5, autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, devenir enfant de Dieu, c'est tout à coup d'appartenir au domaine de la lumière, de la parole de Dieu qui est lumière. Ici, on voit les deux volets, dans un sens, les deux revers de la médaille, là, de ce qui est requis pour être sauvé. Et il n'est pas question d'accomplir des bonnes œuvres pour être sauvé ici. Il est question du côté de l'homme, c'est la foi. Ceux qui ont cru en Jésus, ils ont obtenu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais on voit aussi la part de l'homme, c'est que ça ne s'est pas fait ça selon la décision de l'homme, ni de la volonté de la chair. Il n'y a personne qui peut décider de renaître spirituellement. Si notre esprit est mort, il ne peut pas décider de revivre. Donc, c'est Dieu qui a décidé tout à coup de nous faire renaître, de nous régénérer. On voit ces deux points de vue-là, de ce qui est requis pour le salut. Ça prend la décision de Dieu de nous sauver. Mais la responsabilité de l'homme, c'est de répondre à cette invitation, de recevoir la parole, de croire, d'avoir la foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire de croire en Jésus? Il y en a beaucoup de gens qui disent « Oui, je crois en Jésus. » Mais ce qu'ils ont en tête, c'est « Je crois qu'il a déjà existé. » Un personnage historique, il a fait beaucoup de bien, il a parlé de l'amour. Mais croire en Jésus, c'est vraiment de croire en ce qu'il est venu révéler. C'est le troisième aspect ici de la parole de Dieu qui est présentée dans le prologue. Donc, le premier, c'est que en plus que d'être la parole créatrice, et la parole qui illumine, qui éclaire les ténèbres, qui transforme, c'est la parole qui est venue pour révéler Dieu, révéler son être, révéler son plan. Donc, c'est ça, croire en Jésus. C'est de croire en la révélation de Dieu en Jésus. Les versets 14 à 18. « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et Jean lui a rendu ce témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. » Et Dieu, le Fils unique, est dans le sein du Père, lui, il l'a fait connaître. Donc, selon le verset 14, cette révélation de Dieu-là est survenue par un événement extraordinaire. Ce n'est pas juste un message qui est envoyé. C'est plus extraordinaire même que lorsque Dieu a donné sa parole aux prophètes de l'Ancien Testament. C'est que la parole de Dieu elle-même est venue sur terre, est devenue un homme. La parole s'est faite chair. Le Créateur est devenu un être parmi ses créatures. Il a pris forme humaine, il a habité parmi nous. Jean témoigne même qu'il l'a vu parce qu'il a habité parmi eux. Il marchait avec eux. Donc il est devenu vraiment un homme, à 100% homme, sans perdre sa divinité. Et à ce moment-là, c'est extraordinaire parce que c'était la présence de Dieu sur terre comme jamais auparavant. Et dans le jardin d'Éden où Dieu pouvait parler, communiquer avec Adam et Ève, mais depuis que le péché est venu, la présence de Dieu s'est remanifestée graduellement. On a vu dans 1 Samuel la préparation de la construction du temple, dans 2 Samuel plutôt. Quand le temple est venu, là, même au sein du tabernacle, derrière le voile, on avait la présence de Dieu sur l'arche de l'Alliance. C'était comme le summum de la présence de Dieu. Mais c'est rien à comparer à la venue de Jésus. Dieu lui-même présent sur terre. L'incarnation, ça a changé tout. Et le texte dit que les disciples ont pu contempler la gloire de Jésus. Et Jean dit que c'est semblable à la gloire qu'un père donne à son fils unique. Supposons qu'un père a un seul fils sur sa maison. Il a peut-être des employés à une grande entreprise, mais il veut que son fils soit honoré. Lui, il est le maître de la maison, il est digne d'être honoré, glorifié, mais il veut que son fils soit honoré, et il donne sa gloire à son fils. Bien, Jésus est venu sur terre, revêtu de la gloire divine, la gloire du Fils unique venu du Père. Et donc, ce que les gens ont vu de glorieux en Jésus, c'est vraiment une vision de la gloire de Dieu même. Puis on va voir dans l'Évangile de Jean que la gloire de Jésus s'est manifestée de plusieurs manières. Certains pouvaient la voir, parce que ça prend la foi pour discerner la gloire de Jésus. Jésus est quand même venu humblement, comme on le chantait tantôt. Mais ceux qui l'ont vu, ceux qui ont cru en lui, ils ont été éblouis devant sa gloire. Ils ont pu la contempler, entre autres par ses miracles. Les gens appellent des signes. Les miracles servaient à révéler cette gloire-là, la gloire divine, par toutes ses œuvres qu'il a faites, par ses enseignements, par sa compassion, son caractère aussi, de bienveillance, de fidélité, de bonté, de patience. Il était lent à la colère. Mais tout cela, toutes ces caractéristiques sont associées à la gloire de Dieu. Et Jean résume ce que Jésus a révélé à propos de Dieu. Il appelle cela la grâce et la vérité. La grâce et la vérité. Mais ça nous rappelle la manière dont Dieu, l'Éternel, se présente dans l'Ancien Testament. Sous d'autres mots, mais qu'ils sont proches, là, c'est la bienveillance ou la bonté et la fidélité, la compassion de Dieu. Et justement, quand Moïse, dans Exode 34, quand Moïse demande à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire, je veux voir ta gloire. » Là, Dieu accepte de lui montrer comme un éclat de sa gloire, là, un aperçu. Il dit, « Je vais mettre ma main même pour te protéger, puis tu vas voir mon dos. » Dieu va passer, là. On se serait attendu que Dieu lui montre sa toute-puissance, sa colère vengeresse, son pouvoir de destruction, sa sainteté qui brûle tout à son approche, mais c'est pas ça qu'il montre. Il montre son amour. Et Dieu lui-même se présente dans Exode 34:6, « L'Éternel, Dieu compatissant, il fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. » Ou on pourrait dire « en grâce et en vérité ». C'est ça qu'on a vu en Jésus. Donc, ce qui peut sembler être une gloire pâle, en réalité, c'est le caractère même de Dieu. Tout ce qu'on voit en Jésus, sa manière d'agir, sa manière de parler, ses œuvres, reflètent le caractère de Dieu à 100%. Et c'est ce qui glorifie Dieu. C'est sa gloire. C'est comme ça qu'il veut être glorifié par nous. Donc, ceux qui ont côtoyé Jésus ont pu voir cette même gloire divine. Même Jean-Baptiste témoigne que son ministère, qui était pourtant glorieux, ça a causé tout un émoi là, dans tout le royaume d'Israël. Les gens venaient de partout. Mais il témoigne que son ministère était bien peu glorieux à comparer au ministère de Jésus. Et lorsque Jésus est venu, Jean-Baptiste a été comme éclipsé. Comme si tout à coup, il y a une éclipse. Jean-Baptiste a dû diminuer. Et au verset 15, Jean-Baptiste fait une déclaration qui est surprenante, qui est même énigmatique. Parce que Jean-Baptiste est venu le premier, là. Chronologiquement, même lorsqu'on lit les autres évangiles, il est né avant Jésus. Son ministère a commencé avant celui de Jésus. Et dans la tête des Juifs, celui qui vient en premier a priorité. Son ministère est plus important. Celui qui vient par la suite est de second rang. Les gens, ils disent non, même si Jésus vient ensuite, il est beaucoup plus important que le mien parce qu'il était avant moi. Il m'a précédé. Et comment il a pu précéder Jean-Baptiste alors qu'il est né après? Mais Jean-Baptiste était vraiment conscient de la nature de Jésus. Jésus existait avant de venir sur terre. Il parle de sa préexistence. Le jour que Jésus est né comme un bébé, c'était le début de sa vie terrestre, mais il existait au ciel. Il n'est pas simplement né, il est descendu sur terre, il est venu dans le monde. Et Jean-Baptiste en a témoigné. Ensuite, il parle de la grâce de Dieu. Il dit, on a reçu sa grâce. Et dans toute la Bible, lorsque Dieu parle de sa grâce, il est en train de parler de quelque chose qu'il nous donne. Souvent, on parle de la grâce pour l'associer au pardon de Dieu. Mais le pardon, c'est un don. Il nous donne le pardon. Dans toutes les choses que Dieu donne, c'est une grâce qu'il nous fait. Il donne sa compassion, par sa compassion, sa bienveillance. Donc, c'est toujours dans le contexte où il donne quelque chose. Et au verset 16 et 17, l'apôtre Jean dit que par la venue de Jésus, nous avons, tous ceux qui l'ont côtoyé, nous avons reçu grâce pour grâce. Cette expression-là, grâce pour grâce, est difficile à saisir. Puis, il y en a plusieurs qui se valent. Une qui est très répandue, c'est on a reçu comme une suite de grâces. Une grâce, puis une autre grâce, puis une grâce par-dessus une grâce. Comme une abondance de grâce. C'est possible. Même la traduction français courant le traduit comme ça, je pense. Mais normalement, quand on regarde le langage de Jean, il aurait écrit « grâce sur grâce ». Ici, il dit « grâce pour grâce ». Littéralement, c'est « charis anti-charis ». Anti, ça veut dire « à la place de ». C'est comme si Jean dit « on avait reçu une grâce de la part de Dieu, mais avec Jésus, on a reçu une autre grâce, une nouvelle grâce ». Qui même prend la place de la première. Ce qui appuie cette position-là, c'est le verset suivant, qui commence d'ailleurs par le mot « car ». Nous avons tous reçu grâce pour grâce. « Car », et l'explication s'y trouve, on avait reçu la loi par Moïse, qui est un don de Dieu. C'est une grâce, la loi. Parfois, on résume un peu trop rapidement que l'époque de la loi, l'Ancien Testament, Dieu ne faisait pas grâce. Il était sévère, il disait « faites comme ça », puis il nous traitait comme des robots. Mais c'est pas ce qu'on a vu quand on a étudié 1 et 2 Samuel. Dieu est patient, et il fait grâce, et il est prompt à pardonner. Et même la loi elle-même contient beaucoup d'articles pour trouver le pardon de Dieu, puis pouvoir apaiser sa colère. Mais la loi, elle est montrée dans l'Ancien Testament comme un don de Dieu. D'ailleurs, ça dit que la loi a été donnée par Moïse. Donc, c'est vraiment un don, c'est une grâce de Dieu. Mais Jésus est venu. Et là, il y a quand même une distinction. Là, la loi, si on résume l'époque de l'Ancienne Alliance, c'est principalement l'époque des ordonnances de Dieu. C'est principalement l'époque des lois. Fais cela et ne fais pas ça. Mais l'époque de Jésus, même si Jésus a donné beaucoup de prescriptions, c'est principalement l'époque de la grâce et la vérité, son pardon. La Nouvelle Alliance est caractérisée d'abord parce qu'il nous procure le salut, le pardon, la vie éternelle. Et la vérité qui, je crois, est la connaissance de Dieu. Donc, Jésus est venu nous offrir le pardon pour qu'on puisse échapper aux ténèbres, mais pas pour qu'on soit dans le vide, pour nous connecter à Dieu. Ça, c'est la vérité. Quand on connaisse Dieu, on devienne en relation avec lui, une relation profonde, même ses enfants. Et finalement, au verset 18, Jean résume à nouveau tout le prologue en revenant sur ce qu'il a dit au verset 1. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est vrai que Dieu est invisible. Il répond en même temps à la question des agnostiques. Mais le Fils unique, et même, là ça dépend des manuscrits, mais le manuscrit utilisé pour traduire dans la colombe, c'est Dieu, le Fils unique. Il est dans le sein du Père, lui, il l'a fait connaître. Donc, Jésus, le Fils unique, est auprès de Dieu, qui est Dieu. Lui, il nous a fait connaître Dieu. Donc, la parole, c'est vrai que nul ne peut voir Dieu et vivre. On mourrait si on pouvait, si on verrait le Père. Mais le Fils a franchi cette barrière-là. Il est venu chez nous, dans notre monde, pour nous révéler Dieu. Et ce qu'on voit, quand on regarde Jésus, il ne nous manque rien. On voit en lui toute la plénitude de Dieu. Même Jésus dit au chapitre 14, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Wow! Donc, on fait bien d'étudier qui est Jésus. Plus on apprend à connaître Jésus, plus on apprend à connaître Dieu. Il est celui qui est venu porter la révélation de Dieu. Il est lui-même la révélation de Dieu. Tout dans son être nous révèle Dieu, son plan, son caractère, sa volonté. Donc, c'est un thème fort, le thème de la parole de Dieu. Pourtant, Jean ne va pas le ramener. Dans le reste de l'évangile de Jean, il ne va pas revenir sur le fait que Jésus est la parole. Il va présenter Jésus sous plusieurs angles, il y a plusieurs titres, plusieurs rôles associés à Jésus, plusieurs images. Il ne va plus dire que Jésus est la parole, je pense parce que la parole, ce n'est pas juste un titre parmi d'autres. C'est vraiment, ça touche à son être même. Ça résume tout ce qui est Jésus. Ça englobe tout le récit de l'évangile. Il est celui qui révèle Dieu. Sans la parole, la créature ne pourrait pas connaître le Créateur. Heureusement que la parole est là, le Fils de Dieu. Colossiens 1,15 dit, « Il est l'image du Dieu invisible. » Le point de contact entre le Créateur et la créature. Comme notre frère nous disait dans son témoignage tantôt, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. En tant que parole de Dieu, Jésus est donc la parole créatrice. Ce n'est pas n'importe qui qu'on adore, les chrétiens, c'est le créateur de l'univers. Celui qui est la seule source de vie. Si on se détache de Jésus ou qu'on refuse, bien, ce qui nous attend, c'est la mort. Si on veut continuer à vivre pour l'éternité, le seul moyen, c'est d'être connecté à la source de vie qui est Jésus. Il est la parole qui éclaire, qui permet de sortir du monde des ténèbres. Sans Jésus, si on ne porte pas foi à ce qu'il dit, on reste dans les ténèbres. Même si on consulte tous les sages qu'il y a sur la terre, les philosophes, qu'on réfléchit pendant toute notre vie, on reste aveuglé, on reste dans les ténèbres. Et le sort des ténèbres, c'est d'être jeté dans l'enfer pour l'éternité. Les ténèbres ne vont pas continuer d'exister pour l'éternité. Mais ceux qui acceptent cette lumière-là deviennent des enfants de Dieu, donc des enfants de lumière. Et troisièmement, la parole est devenue un homme, s'est faite chair pour révéler la grâce de Dieu, la vérité de Dieu, pour nous accorder le pardon des péchés, la connaissance de Dieu, donc la vie éternelle. Donc, croyez en lui pour être sauvé. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus a dit, je suis la vérité. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Il n'y a personne qui peut aller au Père sans passer par lui. Si vous êtes déjà sauvé, je vous invite à vous rappeler que votre salut, votre vie dépend, provient uniquement de la parole de Dieu. C'est une pure grâce. Et c'est pour ça qu'on est invité à louer le Seigneur et de vivre pour le glorifier par reconnaissance de ce si grand salut. C'est une pure grâce, grâce à la parole de Dieu, par la volonté du Dieu bienveillant et fidèle. Amen.